RFI, 23h30 à Paris, 22h30 en temps universel. Tout de suite, votre édition Afrique Soir avec Fabien Albert. Bonsoir.
Bonsoir Juliette, bonsoir à toutes et à tous. Explosion de joie dans le QG de Navin Ramgoolam à Maurice. L'ancien Premier ministre et sa coalition, large vainqueur des élections législatives organisées ce dimanche. Pravin Jugnauth, l'actuel chef de l'État, a reconnu sa défaite. Défaite et même déroute, puisque son parti pourrait faire zéro pointé au Parlement. D'élections, il est question aussi au Mozambique. Venancio Mondlane ne jette pas l'éponge et se lance dans une quatrième phase de protestation. Un mois après le scrutin présidentiel, l'opposant fait la chasse à la fraude électorale. À venir également, il est lors des explications pour Resolute, la société aurifère australienne, pointée du doigt par les autorités maliennes. Le PDG du groupe et deux collaborateurs sont toujours en garde à vue après leur arrestation musclée en début de week-end. Les suites du procès Zogo au Cameroun avec des charges alourdies contre plusieurs protagonistes de l'affaire. La COP29 de Bakou s'est ouverte ce lundi. Comme chaque année, les attentes de la société civile africaine sont nombreuses. Vous l'entendrez. Le dossier de cette édition vous emmènera en Afrique du Sud, à Johannesburg. La Société Nationale d'Électricité menace de couper le jus si la ville ne règle pas ses dettes. Pour retrouver la lumière, une réunion d'urgence a eu lieu ce matin. Et puis, objectif, titre pour la République démocratique du Congo au Maroc l'an prochain. Le sélectionneur des Léopards, très ambitieux en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons vers une large défaite et acceptons la décision du peuple. Pravin Jugnauth a reconnu sa défaite en début d'après-midi à Maurice. Le Premier ministre sortant battu dans les urnes lors d'élections législatives organisées hier. Une débâcle électorale même puisque sa coalition risque de n'obtenir aucun siège au Parlement. Le verdict officiel des résultats n'est pas encore tombé mais l'Alliance du changement l'emporte haut la main. Son chef de file, Navin Ramgoolam, qui a déjà été 3 fois Premier ministre, s'apprête à reprendre le pouvoir. À Triolé, ses partisans célèbrent déjà la victoire devant le centre de dépouillement Abdoulaye Rally.
L'ampleur de la défaite du gouvernement envoie une onde de choc à Maurice, marquant un tournant sur la scène politique. Cette déroute immédiatement reconnue par le Premier ministre sortant, Pravin Jugnauth, avant même l'annonce des résultats définitifs, a déclenché des célébrations enthousiastes parmi les partisans de l'Alliance du Changement. Une coalition menée par Navin Ramgoolam qui se prépare à reprendre le poste de Premier ministre à 77 ans. Son principal partenaire de cette coalition victorieuse, Paul Béranger, 79 ans, est le seul homme politique à avoir participé à toutes les élections législatives depuis l'indépendance. À l'instar de Ramgoolam, il a mis tout son poids dans la déroute historique de l'alliance LEPEP. Cette défaite traduit le mécontentement général envers le gouvernement, principalement sur des questions de vie quotidienne. Pouvoir d'achat en baisse, insécurité liée à la drogue et une érosion de la démocratie. La suspension temporaire des réseaux sociaux pendant la campagne électorale et les révélations sur des écoutes téléphoniques illégales ont accentué cette perception d'abus de pouvoir. Abdoulaye Rally, Triolé, RFI.
Venancio Mondlane n'abdique pas. Le candidat de l'opposition au Mozambique vient d'annoncer les modalités de la quatrième phase de la contestation électorale. Venancio Mondlane s'est exprimé dans une vidéo postée sur sa page Facebook. Depuis près de 2 semaines, il mène une campagne de contestation pour protester contre la fraude électorale, alors que le pays attend toujours les résultats définitifs des élections générales du 9 octobre dernier. La quatrième phase de la protestation démarrera mercredi.
Ce sont les intérêts économiques du pays qui sont dans le viseur de Venancio Mondlane. Comme pour les phases précédentes, le candidat de l'opposition appelle à la grève générale. Mais cette fois-ci, il demande que les manifestations se concentrent dans les capitales provinciales, les ports et aux frontières terrestres. « Nous allons tout paralyser », promet Venancio Mondlane. Le mouvement de protestation doit durer 3 jours. Dimanche, le poste de Ressano Garcia à la frontière avec l'Afrique du Sud a été rouvert. Des échauffourées mercredi avaient poussé les autorités sud-africaines à fermer leur côté, provoquant, selon les autorités mozambicaines, près de 6 millions d'euros de pertes. Dans le secteur des affaires, des voix commencent à faire part de leurs préoccupations. La Confédération des associations économiques s'inquiète notamment du secteur touristique. Les réservations sont annulées, le niveau de confiance des touristes est affecté, déplore Mohamed Abdullah, responsable du secteur de l'hôtellerie. Selon le Centre pour l'intégrité publique, une organisation de la société civile, le mouvement de protestation aurait déjà coûté au Mozambique près de 360 millions d'euros.
Les précisions de Penaï Traoré. La compagnie aurifère australienne Resolute dans le viseur de la justice malienne. Depuis vendredi soir, son PDG et deux de ses collaborateurs sont en garde à vue à la brigade du pôle économique. Ils ont été brutalement arrêtés dans un hôtel de Bamako. Au centre de l'affaire, un litige financier avec les autorités maliennes. Le point sur le dossier en cours avec notre correspondant régional Serge Daniel.
La compagnie australienne Resolute détient 80% des parts de la filiale propriétaire de la mine d'or de Siama située dans le sud-ouest du Mali. Les 20% restants sont entre les mains de l'État malien. Le président directeur général de la société, Terence Oloam, et son groupe sont accusés de faux présumés et d'atteinte aux biens publics. Une source au cœur de l'enquête du litige financier entre l'État malien et la société nous a confié, je cite, « C'est une affaire de gros sous, la société. En matière de fiscalité, doit beaucoup de l'argent à l'État malien. » Pratiques commerciales sont tout sauf orthodoxes. Fin de citation. D'après nos informations devant les enquêteurs, le patron de la société et ses collaborateurs en garde à vue se défendent. Mais pour le moment, ils ne souhaitent pas véritablement le clash avec Bamako. La mine d'or rapporte gros et les affaires sont les affaires. Selon un document officiel que nous avons pu consulter, la compagnie australienne serait prête à faire un effort pour mettre sur la table une partie de la somme colossale que réclament les autorités maliennes. Ces dernières restent pour le moment inflexibles et ne seraient pas étonnées de l'inculpation des hauts responsables de la société en cas de non-accord.
Serge Daniel, Mali, où la justice a de nouveau décidé de maintenir en détention l'universitaire Étienne Fakaba Sissoko. Son procès a été renvoyé au 2 décembre prochain. L'économiste condamné en mai dernier à un an de prison ferme pour atteinte au crédit de l'État devait comparaître ce lundi pour son procès en appel. Selon son entourage, les représentants de l'État ne se sont pas présentés à l'audience, d'où le renvoi du procès. Étienne Fakaba Sissoko, qui a également été conseiller à la présidence et à la primature du Mali, a été arrêté en mars dernier suite à la publication d'un livre dans lequel il dénonce la propagande des autorités de transition. Sa défense dénonce une procédure politique et déplore un acharnement. En bref, toujours, le fils aîné de Djibril Bassolé a retrouvé la liberté ce mercredi 6 novembre au Burkina Faso. Aziz Bassolé avait été arrêté en septembre dernier et emmené vers une destination inconnue par des individus non identifiés. En revanche, sa fille Yasmine, son cousin Nicodème et son aide de camp, arrêtés eux aussi, sont toujours en détention, selon ce qu'affirme Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Blaise Compaoré. La reprise du procès Martinez Zogo au Cameroun, aujourd'hui a eu lieu la 11e audience dans l'affaire du nom du rédacteur en chef de la radio Amplitude FM, assassiné en janvier 2023 à Yaoundé. Ce matin, le tribunal militaire a rejeté toutes les requêtes et anomalies relevées par la défense au cours des dernières audiences, avant de repréciser les infractions qui sont retenues contre les accusés. À Yaoundé, la correspondance de Richard Onanena.
L'audience a duré moins d'une heure, juste le temps pour le juge militaire de rejeter les exceptions relevées par la défense. Des exceptions jugées précoces et infondées par la Cour. Les avocats de la défense évoquaient notamment des vices de procédure à l'instar des perquisitions sans mandat, des heures indues et l'absence de procès-verbaux pour ces perquisitions. La Cour s'est appuyée sur ce qu'elle qualifie de simples erreurs matérielles suite à des omissions observées dans l'ordonnance de renvoi d'octobre dernier pour préciser les infractions retenues contre les accusés. Pour l'accusé Justin Danwe, patron du commando suspecté d'avoir enlevé et torturé Martinez Zogo, les faits retenus, complicité de coaction, d'arrestation et séquestration, complicité de coaction de torture, complicité de coaction d'assassinat, violation de consigne. Jean-Pierre Amougou-Bellinga, patron du groupe privé L'Anecdote, propriétaire de la télévision Vision 4, et Léopold Maxime Eco-Eco, ex-directeur de la DGRE, la direction de la recherche extérieure, sont accusés d'infraction de complicité, de coaction, de torture. Les parties disposent d'un délai de 48 heures à compter du lendemain du prononcé du présent jugement pour faire appel. L'affaire a été renvoyée au 2 décembre 2024. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Mieux coopérer pour gagner en sécurité et faire face aux défis humanitaires. C'est l'objectif de la 10e session de la Commission spéciale Défense et Sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. La session s'est ouverte ce lundi à Kinshasa. Elle doit se refermer mercredi. Les discussions sont menées en sous-commission avec pour objectif de consolider la confiance mutuelle et d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations communes. À Kinshasa, la correspondance de Patient Ligaudy.
Malentendus, suspicions et litiges inutiles, voilà des termes qui résonnent souvent dans les couloirs officiels des deux Congos. Ces capitales voisines, les deux plus proches au monde, partagent aussi des défis sécuritaires. Le ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville, Raymond Zéphirin Boulou, a insisté sur l'importance du vivre ensemble et de la confiance mutuelle.
C'est le Congo. Il est notre terre partagée. Il est notre richesse. Il est notre vie. Il a fondé notre peuple et il a forgé notre culture. Travaillons à le protéger des suspicions et des litiges inutiles.
Les relations entre la RDC et la République du Congo ont récemment été marquées par des tensions liées à la politique de Brazzaville envers le Rwanda. En mai dernier, des informations font état d'une cession des terres agricoles du Congo-Brazzaville au Rwanda, suscitant des interrogations à Kinshasa quant aux motivations de cette initiative. Raymond Zéphirin Boulou, sans mentionner cet épisode, a tenu à clarifier la position de Brazzaville.
Le Congo n'a jamais servi et ne servira jamais de base arrière pour une initiative visant à déstabiliser un pays voisin, surtout pas le pays frère qu'est la République démocratique du Congo.
Ainsi, Kinshasa et Brazzaville entendent renforcer leur coopération en instaurant des échanges réguliers pour consolider leurs liens. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
Soupçonné de corruption, Abdelaziz Marloufi a été placé en détention en Tunisie. Le PDG du groupe Chaux, premier exportateur d'huile d'olive du pays, avait été interpellé il y a 10 jours. Abdelaziz Marloufi exploite une immense plantation d'oliviers appartenant à l'État. C'est cette gestion administrative et financière qui est mise en cause par les autorités. Celui qui est aussi le président du club sportif Sfaxien, l'un des principaux clubs de foot du pays, est la cible d'une enquête du pôle économique et financier de Tunis. Affaire dans laquelle, selon les médias locaux, 15 personnes, dont un ancien ministre, sont également poursuivies. 18 mois de prison ferme et 1 500 000 dirhams de dommages et intérêts d'amende, soit environ 140 000 euros au Maroc. Le tribunal de première instance de Rabat a condamné ce lundi le journaliste Hamid El Mardawi, directeur de publication du média Badil.info. Cette condamnation fait suite à une plainte pour diffamation déposée par le ministre de la Justice, Abdelatif Wahbi.
Afrique Soir sur RFI.
La COP29 a débuté ce lundi à Bakou en Azerbaïdjan. Top départ de 2 semaines de négociations pour le climat. Une COP29 qui sera la COP des finances, au cours de laquelle un accord devra être trouvé sur un nouvel objectif de financement de la lutte contre le changement climatique. Pour Fadel Kaboub, membre de PowerShift Africa, les enjeux de ce financement sont d'autant plus importants après l'élection de Donald Trump aux États-Unis.
Du point de vue africain, le financement de la lutte contre le changement climatique est un financement du développement. Cependant, au vu des résultats des élections aux États-Unis, avec Donald Trump qui a promis de se retirer à nouveau de l'accord de Paris et de retirer les États-Unis de toutes les négociations liées au climat, le reste du monde doit maintenant redoubler d'efforts pour nous aider à réduire les émissions dans le Nord, mais aussi à abandonner les combustibles fossiles et à fournir l'aide au développement écologique dont le Sud a besoin pour construire une économie résiliente et durable. Le débat va maintenant se dérouler entre le Nord et le Sud. Est-ce que l'Europe, les États-Unis, la Chine et les grandes économies industrialisées seront prêts à passer de un peu plus de 1 milliard à 1 000 milliards et à améliorer la qualité des financements et pas seulement leur quantité, afin de ne pas recréer la même hiérarchie coloniale que celle que nous avons connue par le passé?
Fadel Kaboub, joint par Weli Diallo. Et tard ce lundi soir, les pays participants ont adopté les premières règles de l'ONU pour le marché controversé des crédits carbone. Ces dispositions validées par consensus étaient attendues depuis l'accord de Paris de 2015. Place au dossier de cette édition à présent, direction l'Afrique du Sud, où les habitants de Johannesburg pourraient prochainement se retrouver dans le noir. La Société nationale d'électricité Eskom menace de couper le courant de la ville si celle-ci ne paye pas ses dettes. Selon Eskom, la municipalité lui doit 4,9 milliards de rands, soit 260 millions d'euros de factures impayées. Réunion d'urgence ce matin entre le maire de Johannesburg, le ministre de l'énergie et le PDG d'Eskom pour tenter de trouver une solution à cette crise. Alexandra Branjon.
Eskom menace tout simplement de couper le courant aux 5,6 millions d'habitants de Johannesburg pour factures impayées. En Afrique du Sud, ce sont les municipalités qui achètent l'électricité à Eskom pour ensuite la revendre avec une marge conséquente aux habitants de la ville. Pour ces municipalités, il s'agit d'une importante source de revenus qui contribue à leur fonctionnement et avec lequel elles sont censées procéder à l'électrification des quartiers qui n'ont toujours pas de courant et à l'entretien du réseau. Sauf que de nombreuses agglomérations sont en défaut de paiement. Eskom, qui est en quasi-faillite, accuse Johannesburg de ne pas régler sa dette. De son côté, la ville accuse le fournisseur d'électricité de surfacturer le prix de l'énergie. Il faut dire que ces dernières années, le fournisseur a augmenté à plusieurs reprises ses prix, citant des revenus insuffisants et a récemment demandé l'autorisation pour une nouvelle augmentation de 36% dès l'année prochaine. Une hausse faramineuse décrit les associations de consommateurs, alors que plus de 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Alors, on vient de l'entendre, ce sont les municipalités qui achètent l'électricité et la revendent aux consommateurs. Pourquoi la mairie de Johannesburg, capitale économique du pays, ne paye-t-elle pas sa facture d'électricité? Nicolas Sûr a posé la question à Claude Bessac, directeur de la société d'analyse géopolitique et risque pays Eunomics.
La municipalité de Johannesburg est aux mains de l'ANC de manière plus ou moins continue maintenant depuis la libération. Et la qualité de la gestion de Johannesburg s'est absolument effondrée, notamment si on compare celle de Cape Town, qui est dirigée par le parti d'opposition, qui fait maintenant partie du gouvernement du non-national, le DA, Democratic Alliance. Et on fait face à un véritable effondrement de la qualité de la gouvernance, de la gestion de la ville. En termes du secteur de l'électricité, ça se manifeste d'une part par la véritable explosion des connexions illégales, donc du vol de l'électricité, qui est un phénomène aujourd'hui quasi universel, notamment dans les quartiers défavorisés, et d'autre part par le fait que le système de facturation de la municipalité vis-à-vis de ses clients, à savoir les résidents, ce système s'est effondré il y a à peu près 10 ans par incompétence et possible, il semblerait, par corruption. Et donc, il y a un trou noir immense qui n'est pas seulement un trou noir financier, mais aussi un trou noir d'informations comptables sur ce qui serait vraiment dû ou pas dû par la municipalité à Eskom et aussi des consommateurs à la municipalité.
En dehors du cas de Johannesburg, est-ce qu'on a une idée du montant de ce que représentent les impayés des autres institutions et entreprises publiques auprès d'Eskom?
Écoutez, les chiffres varient parce que le système lui-même n'est pas transparent, mais on parlerait juste pour les municipalités. En dehors de Johannesburg, on parlerait d'à peu près 100 milliards de randes, c'est-à-dire 1,5 milliard d'euros à peu près. Si vous y rajoutez la municipalité de Johannesburg, où le montant est disputé, on parle d'environ 2 milliards d'euros.
Donc c'est un montant énorme. Quelles sont les conséquences de ce manque à gagner pour Eskom?
Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, Eskom est d'un point de vue comptable une société qui devrait être reconnue comme étant en faillite et qu'elle dépend entièrement des aides de l'État dans une situation où il y a eu véritablement, au cours des dernières années, une explosion de la dette publique. Ça contribue d'autant plus à ce que Eskom, pour pouvoir compenser ce manque à gagner, nécessite une augmentation des tarifs d'électricité. Depuis maintenant 2009-2010, les tarifs d'électricité ont augmenté d'environ 700 à 800% pour le consommateur de base.
Claude Bessac, directeur de la société géopolitique et risque pays Eunomics, joint par Nicolas Sûr. Après 68 et 74, la République démocratique du Congo affiche ses ambitions pour 2025. En conférence de presse, le sélectionneur des Léopards a déclaré vouloir remporter la CAN qui se tiendra en fin d'année prochaine au Maroc. Sébastien De Sabre compte profiter des deux derniers matchs de qualification pour la CAN pour faire des tests. Les Léopards déjà qualifiés affrontent ce samedi à Ebimpe en Côte d'Ivoire la Guinée, puis l'Éthiopie à Kinshasa le 19, Olga Massangou.
Pour la première fois, il révèle clairement son objectif pour la prochaine CAN. Demi-finaliste en Côte d'Ivoire, les Léopards visent cette fois le titre, selon le sélectionneur Sébastien De Sable.
Faire une demi-finale de la CAN avec le Congo, c'est pas gagné. La CAN, nous, c'est ce qu'on recherche.
Déjà qualifié pour la CAN 2025 à 2 journées de la fin des éliminatoires, la RDC voudrait quand même gagner ses 2 prochains matchs pour améliorer sa position au classement FIFA. Ces deux prochains rendez-vous seront également pour le technicien français l'occasion de donner la chance à certains joueurs.
Aujourd'hui, le championnat local est reparti et il est du rôle du sélectionneur DA de suivre cette génération-là parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, à terme, les locaux pourraient revenir rejoindre les A.
Pour ces matchs face à la Guinée et face à l'Éthiopie, Sébastien De Sabre a convoqué 26 joueurs, dont un seul évoluant au pays, Oscar Kabuit. L'attaquant du TP Mazembe, âgé de 19 ans, remplace sur la liste initiale Gaël Kakuta qui a finalement déclaré forfait suite à une blessure. Olga Masangu Kinshasa, RFI.
23h50 à Paris, 22h50 à Dakar.
Afrique Soir sur RFI. Fabien Albert.
À la une de l'actualité internationale, à la COP29, les États-Unis veulent rassurer le monde avant l'arrivée de Donald Trump. À quelques mois du retour au pouvoir du républicain, le représentant de Joe Biden à la conférence annuelle sur le climat de l'ONU à Bakou a promis que l'action climatique se poursuivait aux États-Unis. Mais la perspective du retrait américain de l'accord de Paris de 2015 pour la seconde fois affaiblit la parole des négociateurs de la première puissance mondiale. Les dirigeants des pays arabes et musulmans réunis lundi en Arabie Saoudite ont appelé Israël à se retirer totalement des territoires arabes qu'ils occupent depuis 1967 pour parvenir à une paix juste et globale. Dans le même temps, le nouveau chef de la diplomatie israélienne a déclaré que la création aujourd'hui d'un État palestinien n'était pas une position réaliste. Et puis Manchester United a officiellement un nouvel entraîneur, le Portugais Ruben Amorim a pris ses fonctions aujourd'hui en remplacement d'Eric Ten Hag, limogé pour mauvais résultats. L'ancien entraîneur du Sporting aura la lourde tâche de ramener les Red Devils au sommet, eux qui n'ont plus été champions d'Angleterre depuis 2013. Et le départ de Sir Alex Ferguson. RFI, où il est donc 22h51 à Dakar, au Sénégal. C'est une année noire pour les transformateurs de noix de cajou. Alors que plusieurs entreprises agro-industrielles locales ont misé sur le secteur de l'anacarde, espérant reproduire le succès ivoirien, c'est tout l'inverse qui se passe cette année. Entre hausse des prix de la matière première et mauvaise récolte, la quasi-totalité des entreprises de transformation de la cajou risque de mettre la clé sous la porte. Reportage auprès de certaines d'entre elles en Casamance, de Léa-Lisa Visterhoff.
Ici, on est au département de décortiquage.
Iman Dramé, directeur d'une usine de transformation de noix de cajou, nous guide. À sa gauche, un tapis roulant, une machine à trier, mais depuis le mois de mai dernier, tout est à l'arrêt.
Nous sommes en arrêt de production, faute de matières premières, parce que cette année, la matière première a été très chère. Il y a eu des spéculations, ce qui fait que nous n'avons pas pu acheter pour pouvoir travailler.
Iman Dramé, qui a monté son entreprise en 2004, décrit le cercle vicieux auquel font face les transformateurs de cajou. Une mauvaise récolte, 50 voire 60% de cajou en moins cette année, suite à des vents chauds au moment de la floraison. Résultat, des cajou devenus impayables, voire inaccessibles, car vendus au prix fort à la concurrence étrangère plutôt qu'aux entreprises de transformation sénégalaises. Iman Dramé a dû mettre 8 employés au chômage technique et interrompre le contrat de 90 journalistes. Mais pour Jacques Biramsek, à la tête d'Etikajou, à 180 km de là, près de Kolda, c'est pire.
Voilà le licenciement pour motif économique, déjà pour les 19 permanents que nous avions, mais également pour la centaine de femmes qui intervenaient comme journalières dans les différentes sections de la transformation. Elles aussi ont été obligées d'être arrêtées. Donc c'est une conséquence très lourde d'un point de vue socio-économique, surtout dans une zone, la région de Kolda, qui on peut dire est une des régions les plus pauvres du Sénégal, où il n'y a presque pas d'industrie de transformation qui embauche autant de personnes.
En cause, l'absence de mesures protectionnistes pour éviter que les producteurs de cajou ne vendent au plus offrant ailleurs, estime Boubacar Konta, président de l'interprofession cajou du Sénégal.
C'est l'État qui a la capacité de faire la régulation. Dans tous les pays où le cajou a eu vraiment un succès, c'est avec l'implication de l'État qui a pris des mesures comme des mesures d'agrément pour connaître quels sont les exportateurs et qui fait quoi.
Un plaidoyer sur le modèle de la Côte d'Ivoire a été transmis aux autorités. Parmi les demandes, celle d'imposer une taxe aux exportateurs pour encourager ces dernières à vendre en priorité aux entreprises de transformation sénégalaises. Le gouvernement promet d'appliquer la mesure pour la prochaine récolte. D'ici là, les entreprises se serrent la ceinture pour réussir à tenir sans mettre définitivement la clé sous la porte. Léa-Lisa Westerhoff, de retour de Ziguinchor, RFI.
Un dossier Afrique Éco à retrouver sur notre site. site www.rfi.fr. Il est 23h54 ici à Paris, l'heure de votre playlist RFI du soir que vous entendez derrière moi. Elle nous emmène au Niger. Imagiron, le nouveau titre de Mdou Mokhtar. De Mdou Mokhtar pour conclure cette édition d'Afrique Soir. Merci à Jonathan Brédy à la réalisation, à Penaï Traoré à la rédaction en chef et à Simon Buil-Baudin, attaché de production. Votre prochain rendez-vous avec l'information, ce sera dans 2 minutes avec le journal de Mathis Slimano. Bonne fin de soirée à l'écoute de RFI.
Vous êtes chanteur ou musicien d'Afrique, des Caraïbes ou de l'océan Indien? Vous rêvez de développer votre carrière à l'international? Inscrivez-vous en ligne pour le prix Découverte RFI avant le 20 novembre.
Le lauréat ou la lauréate aura la chance d'être à l'affiche d'un concert diffusé sur RFI et bénéficiera d'une tournée en Afrique et d'une aide à la création.
Retrouvez toutes les étapes et actualités du concours sur prixdécouverte.com et sur Facebook, Insta et TikTok.
En partenariat avec l'Institut français.
RFI, la sélection du mois.
J'arrive en pétard sur la pécane dans ta tête.
Que Black.
Et si ton père ne veut pas pour la dot, moi je vis de la caisse. Je suis plutôt fêtard et tu le sais, je te parle en vrai.
H de Best et Amadeus.
RFI Musique.
Demain sur RFI, de vive voix. Pascal Paradou.
Une histoire d'amour dans un pays où les frontières auraient disparu suite à une tempête de sable sans effacer les légendes et les fables de cette terre. Karim Khatan est palestinien et pour son deuxième roman, L'Éden à l'aube, il rêve, il fantasme et nous fait entendre un grand chant de liberté.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI. Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
comprendre le rôle du jeûne intermittent pour le poids et le vieillissement.
Mercredi,
prévention et prise en charge de la pneumonie pour protéger les enfants.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 71 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.